Quelle France dans 10, 20, 50 ans? Nous avons auditionné plus de 400 personnalités parmi les plus qualifiées du pays et dans tous les domaines. L'heure est à une mobilisation générale pour éviter le pire et construire le meilleur. Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes sous la direction de Jacques Attali aux éditions Fayard.
Centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Mais la chasteté dans votre ordre, c'était une nécessité?
Absolument.
Père Roger, que nous vivons. Est-ce que vous avez des tentations?
Et bien sûr, j'en ai. Et vous imaginez que je ne pourrais pas être assez malhonnête quand on me pose la question que vous me posez pour dire que je n'ai été un homme sans tentation, que je reste un homme sans tentation.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. L'actualité est si forte que nous ne pouvions échapper ici, sous la lumière de la longue durée, à la question du défi qui s'est trouvé posé sans relâche à l'Église catholique par les dérives de la sexualité de ses serviteurs. Dès lors que pour ceux-ci, l'institution a affirmé la chasteté comme un devoir du premier rang, elle était vouée à affronter dans ce domaine le regard de la société alentour tout en s'interrogeant sans cesse elle-même sur les moyens de faire respecter son diktat. On repère constamment le double souci de châtier les manquements et d'en dissimuler les manifestations. Myriam Deniel Ternan, mon invitée, professeure de classe préparatoire à Cherbourg, signe un livre consacré à la période qui va du 15e au 18e siècle en France et qu'elle a intitulé « Sans ciller, une histoire érotique de l'Église » avec ce rude sous-titre « Quand les hommes de Dieu avaient le diable au corps ». Bien sûr, en bonne chercheuse, elle a repéré les périls de sa quête, la difficulté d'accéder aux sources intérieures à l'institution, celle des pouvoirs temporels étant plus accessible, et aussi le risque d'une représentativité excessive accordée à des faits qui s'imposent à l'attention avec une violence particulière. La littérature, qui se nourrit de ce sujet, est d'une profusion impressionnante, révélatrice à la fois des scandales débusqués et des fantasmes qui prolifèrent. La clôture des couvents stimule toutes les imaginations. Quant aux prêtres séculiers, du haut en bas de la hiérarchie, au long de la période que nous allons considérer, le célibat qui leur est imposé est voué à susciter chez leurs paroissiens, lorsque de fréquentes libertés sont prises avec sa loi, un mélange de réprobation et d'indulgence. Il renseigne sur une civilisation où l'imprégnation religieuse était d'une évidence qui nous est désormais étrangère. Et pour commencer, du côté des reflets et des pamphlets, du côté d'un regard joyeux, La Fontaine. La Fontaine, bien sûr, pas celui des fables, celui des contes. En voici un qui s'intitule « Comment l'esprit vient aux filles ». Un extrait, pour le moins.
Entrez ici, suivez-moi hardiment. Nul ne nous voit, aucun ne nous entend. Tous sont au cœur. Le portier est personne entièrement à ma dévotion et ses murs ont de la discrétion. Elle le suit, ils vont à sa cellule, mon révérend la jette sur un lit, veut la baiser. La pauvrette recule un peu la tête et l'innocente dit « Quoi, c'est ainsi qu'on donne de l'esprit ?»« Eh, vraiment, oui !» repart sa révérence. Puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi? Vraiment oui. Comment donc? La belle prend le tout en patience. Il suit sa pointe et, d'encore en encore, toujours l'esprit s'insinue et s'avance, tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. Bonaventure, à six moments de là, donne d'esprit une seconde dose. Ce ne fut tout, une autre succéda. La charité du beau-père était grande. Eh bien, dit-il, que vous semble du jeu? À nous venir, l'esprit tarde bien peu, reprit la belle. Et puis elle demande, mais s'il s'en va? Mais s'il s'en va, nous verrons. D'autres secrets se mettent en usage. N'en cherchez point, dit Lise, davantage. De celui-ci, nous nous contenterons. Soit fait, dit-il, nous recommencerons au pis-aller, tant et tant qu'il suffise. Le pis-aller sembla le mieux à Lise.
Myriam Daniel Ternan, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai lu attentivement et notamment j'ai lu de vous cette phrase « Sur l'érotisme flotte un vent de légèreté incompatible avec la pornographie insistante, crasse et lubrique ». En choisissant La Fontaine, j'ai eu le sentiment d'être fidèle à cette tonalité.
Exactement, vous êtes fidèle à la tonalité de légèreté et c'est par là que j'ai commencé dans le livre, l'introduction que j'ai intitulée de manière peut-être un peu provocatrice, préliminaire, afin de bien instaurer une distinction entre ce qui relèverait de la pornographie et de ce qui relèverait de l'érotisme.
Votre choix est fait et il va, je crois, donner une tonalité spécifique à notre conversation. En vous lisant, on s'interroge forcément sur la difficulté d'accéder à des sources. Le secret fait partie intrinsèque de votre sujet. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que ces sources ne risquent pas, d'une certaine façon, de peser sur les conclusions?
Alors, de toute façon, quand on travaille en histoire, on doit faire le deuil de l'exhaustivité.
Certes, madame.
On doit faire aussi le deuil de la représentativité absolue des sources. Donc, il faut être humble dans son approche des sources et dans la capacité à en consulter le plus possible.
Quels sont les vôtres?
Voilà, donc j'ai travaillé sur un ensemble de sources éclectiques, les sources littéraires, les sources narratives. Et puis, mon propos était aussi beaucoup de m'appuyer sur les sources de la pratique, donc les sources judiciaires, de la justice ecclésiastique, telles que les tribunaux ecclésiastiques, qu'on appelle les officialités, mais aussi les sources qu'on pourrait appeler extrajudiciaires, qui sont les sources de l'arbitraire, donc tout ce que le grand public connaît sous le terme « lettre de cachet » lorsqu'on incarcère sur ordre du roi, même si en réalité c'est pas le roi qui est à l'initiative de la lettre bien souvent, mais il la signe, ou du moins ses services la signent. Et puis, surtout les sources policières. Là, c'est vrai qu'il y avait, surtout pour le XVIIIe siècle à Paris, il y avait matière à travailler. Et puis ensuite, tout ce qui est source un peu plus théorique de traité de la police, traité de la justice. Et tout ça permet d'avoir accès à un panorama qui sans doute n'est pas complet, sans doute est déséquilibré au regard des intérêts des autorités en fonction du temps. Mais cela permet quand même de brosser à grands traits cette sexualité ecclésiastique sous l'Ancien Régime en France.
Eh bien, nous allons en parler. Je voudrais que nous commencions par ce que la situation des moines dans leur couvent implique de spécificité. Il y a les ecclésiastiques qui sont dans le siècle séculier, et puis il y a les moines qui sont en principe protégés du monde extérieur. Mais en réalité, vous nous montrez très bien qu'il y a une continuité dans la circulation des personnes et peut-être des tentations.
Alors théoriquement, le clergé régulier qui est censé obéir à une règle, on a le sentiment qu'il doit vivre dans la clôture. En fait, cette clôture, elle s'avère beaucoup plus poreuse qu'on ne le pense. Puis, en fonction des ordres monastiques, il y a différents degrés de clôture.
Nous l'avions constaté récemment dans une émission consacrée à Clairvaux.
Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les moines circulent. Néanmoins, ce qui définit un moine, c'est la prononciation des vœux, donc les vœux solennels, donc c'est les vœux d'obéissance, les vœux de pauvreté et puis les vœux de chasteté. Mais là encore, c'est pas si simple parce que pendant les 5 années qui suivent la prononciation des vœux solennels, on peut se dédire, donc on peut faire marche arrière. Et au terme de ces 5 ans, le moine est censé se consacrer à Dieu, ce qui implique de faire œuvre de chasteté et ce qui implique de ne pas être en contact avec le siècle. Mais là encore, la pratique est un peu différente. Déjà parce que les moines, contrairement à ce qu'on pense, ils circulent pour des raisons personnelles. Ils vont voir leur famille ou en fonction précisément de leur fonction, donc de leur statut au sein de l'ordre, ils peuvent être amenés à aller d'une maison régulière à une autre pour des missions. Ce qui fait que je les retrouve parmi les ecclésiastiques pris en flagrant délit chez les filles publiques de Paris. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en termes d'impératif de chasteté.
Alors il convient, Myriam Daniel Ternant, que nous revenions assez loin en arrière, non pas jusqu'à la Bible, encore que ce serait très intéressant de considérer l'Ancien Testament du point de vue qui vous occupe. Je vois qu'un livre récent de Jean-Pierre Rosa, La Bible, le sexe et nous, qui est paru en 2019, a le parti pris d'aller chercher dans les récits bibliques, je le cite, ce qui semble bizarre ou inconvenant. Et il y a de quoi faire.
Oui, il y a de quoi faire. On peut remonter effectivement très loin et d'aucuns se sont essayés à rechercher les origines doctrinaires de cette imposition de la chasteté. Mais cette imposition, elle se fait par paliers successifs, de manière très progressive.
Il faut dire que dans l'Ancien Testament, d'après cet auteur, on trouve désir, onanisme, adultère, inceste, sodomie, zoophilie, polygamie, sadomasochisme, j'en passe guère à vrai dire.
La sexualité n'est pas absente de la Bible, absolument. Oui. C'est une construction qui s'effectue au premier temps du christianisme, donc dans les 4 premiers siècles, mais l'histoire n'est pas encore achevée à la fin du 4e siècle. Et c'est seulement au 12e siècle que là, il y a véritablement une sexualité qui est exclue de la sphère sacerdotale. On ne peut plus être un homme de Dieu et avoir une sexualité licite.
Et c'est aussi le temps où la littérature devient plus gaillarde, plus ironique, Rabelais.
Oui, et même avant ça, les fabliaux du Moyen-Âge, les farces, fustigent cette sexualité interdite, surtout du clergé régulier, c'est surtout les moines qui font l'objet au Moyen-Âge de ces railleries, de ces moqueries qui font de la sexualité un ressort comique.
On peut citer les 100 nouvelles qui remontent à 1462, commandées par Philippe le Bon, le duc de Bourgogne.
Oui, on est à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et elles abondent en nouvelles mettant en scène des subterfuges, des quiproquos, des récits farcesques qui font plutôt des moines, des acteurs de dévoiement de la naïveté féminine. Et tout est bon pour parvenir à trouver des moyens de contournement afin de faire succomber la proie, donc la femme.
L'humanisme marque aussi une période. On peut rappeler que Érasme était le fils d'un prêtre.
Absolument, oui, c'était le fils d'un prêtre. Et lui-même n'est pas en reste sur la critique qu'il fait de l'absence de sexualité ecclésiastique. D'ailleurs, il raille la grande fécondité que l'on remarque dans les foyers où les franciscains ont l'habitude de venir. Et donc il met implicitement cette fécondité sur le compte des ecclésiastiques fréquentant ces ménages.
Et y a-t-il un avant et un après Concile de Trente dans la doctrine de l'Église sur ces questions de la chasteté, du péché de chair chez les prêtres et chez les religieux?
Il y a au contraire une continuité avant et après le Concile de Trente sur l'importance de la chasteté dans l'ordre religieux. En revanche, c'est vrai que le Concile de Trente enfonce le clou et le Concile de Trente insiste sur cette nécessité de chasteté. Mais le fait même d'avoir à insister, le fait même de rappeler cette norme comportementale est signe qu'elle n'est pas appliquée. Et c'est une réponse qui est faite notamment aux protestants, c'est une réponse qui leur est faite sur les abus du clergé. Il s'agit de remédier à ces abus du clergé, notamment les abus moraux.
Le XVIe et le XVIIe siècle, nous entrons dans votre période d'élection. N'est-ce pas, Myriam Daniel Ternant, est aussi le temps où cette réprobation d'une sexualité non contrôlée du côté de l'Église se mêle à tout ce qu'on peut appeler l'émergence de la sorcellerie.
Peut-être cela mérite-t-il qu'on s'y attarde un instant.
Oui, on est dans les derniers feux de la sorcellerie, en particulier au XVIIe siècle. On a un certain nombre d'affaires qui défraient la chronique. Alors Aix-en-Provence en 1611, on a Loudun en 1632, Louviers en 1643.
Qu'est-ce qui se passe ?
Auxonne. Eh bien, on a quand même des caractéristiques communes qui se dégagent. Donc ce sont tout d'abord des couvents féminins, principalement des couvents d'Ursulines, dans lesquels la rumeur enfle, disant que un ecclésiastique abuserait de son ascendant spirituel pour séduire les moniales, et dans lesquels ces moniales sont aussi prétendues être possédées. Et donc on vient vérifier, on charge des experts afin de mesurer la véracité de ces rumeurs. Et ces expertises, qui sont parfois publiques, donnent lieu à des scènes exhibitionnistes de monstration de ces possessions qui relèvent de simulacres de coït, mais en public.
L'affaire de Loudun est particulièrement topique avec le fameux Urbain Grandier.
Qui finit sur le bûcher en 1634. Et en effet, c'est une des affaires dans lesquelles il est dit que les diables sont en exercice au travers de la possession dont sont victimes les religieuses du couvent. Et puis c'est une des affaires qui relance aussi ce débat, puisqu'il existe depuis très longtemps ce débat sur le célibat des prêtres, d'autant que lorsque l'on perquisitionne la chambre d'Urbain Grandier, on y trouve un manuscrit qui critique le célibat des prêtres. Et ça ne va pas jouer évidemment en sa faveur. En plus, il est précédé d'une réputation de coureur de jupons invétéré. Et c'est finalement ça, davantage peut-être, que les rumeurs de sorcellerie ou d'ensorcellement qui précipitent sa chute.
Si on considère cette histoire des débauches dans l'Église, le XVIIe siècle est intéressant. Il donne le sentiment un peu d'un contraste, d'un côté suppression du délit de sorcellerie, et de l'autre, notamment quand Madame de Maintenon règne sur la France, à la fin du règne de Louis XIV, resserrement d'une certain puritanisme, le mot n'est probablement pas bien choisi.
Oui, mais c'est précisément cette tension entre une sorte de civilisation des mœurs, si on reprend l'expression de Norbert Elias, et puis ces affaires judiciaires de sorcellerie qui expliquent le fait que plusieurs d'entre eux finissent dans les flammes.
Il y a dépénalisation de la sorcellerie.
Oui, oui. En 1682, ce sont les derniers feux des peines judiciaires pour motif de sorcellerie, même s'il y a un soubresaut au premier tiers du XVIIIe siècle.
Évidemment, l'arrivée des Lumières est essentielle. Et on voit les philosophes, naturellement, s'emparer de ce sujet, notamment pour critiquer l'Église catholique installée et la foi imposée. Je pense bien sûr à Diderot, avec une œuvre qui a beaucoup compté, La Religieuse, qui d'ailleurs a été publiée, n'est-ce pas, de manière posthume, mais qui est très représentative d'un état d'esprit. Alors je vais vous faire écouter un extrait de La Religieuse. C'est une scène où on va voir la supérieure tentée par les charmes de la sœur qu'elle s'efforce de séduire. C'est un extrait, vous entendrez le public réagir à un moment donné, c'est un extrait d'une soirée littéraire de la Comédie française sur France Culture, le 8 avril 1965. Denis Diderot, La Religieuse.
Quelle impression fait sur vous la présence d'un homme ? Aucune ? S'il a de l'esprit et qu'il parle bien, je l'écoute avec plaisir. S'il est d'une belle figure, je le remarque. Et votre cœur est tranquille ? Jusqu'à présent, il est resté sans émotion. Quoi ? Lorsqu'ils ont attaché leurs regards animés sur les vôtres, vous n'avez pas ressenti, quelquefois, de l'embarras. Il me faisait baisser les yeux. Et sans aucun trouble. Aucun ? Et vos sens ne vous disaient rien ? Je ne sais ce que c'est que le langage des sens. Ils en ont un, cependant. Ça se peut. Et vous ne le connaissez pas ? Point du tout. C'est un langage bien doux. Et voudriez-vous le connaître ? Oh non, chère mère, à quoi ça me servirait-il ? À dissiper votre ennui ? À l'augmenter, peut-être ? Et puis, que signifie ce langage des sens sans objet ? Quand on parle, c'est toujours à quelqu'un. Ça vaut mieux sans doute que de s'entretenir seul. Quoi que ce ne soit pas tout à fait sans plaisir. Je n'entends rien à tout cela. Si tu voulais, cher enfant, je te deviendrais plus claire. Non, chère mère, non, je ne sais rien et j'aime mieux ne rien savoir que d'acquérir des connaissances qui me rendraient peut-être plus à plaindre que je ne suis. Je n'ai point de désir et je n'en veux point chercher que je ne pourrais satisfaire. Et pourquoi ne le pourrais-tu pas? Et comment le pourrais-je? Comme moi? Comme vous? Il n'y a personne dans cette maison. J'y suis, cher enfant. Vous y êtes. Eh bien, que vous suis-je? Que m'êtes-vous? Oh, qu'elle est innocente.
Il y a, Myriam, de Niel Ternant, un rebond intéressant du côté du cinéma, puisque le film de Rivette, qui s'appelle La Religieuse, et qui a créé beaucoup de remous, notamment dans l'Église catholique, date des mois qui précèdent mai 68.
Oui, il est sorti en 1966, non sans mal d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu une levée de boucliers pour empêcher sa sortie.
Suspendu par le ministre de l'Information de l'époque, Yvon Bourges.
Oui, et puis la présidente aussi de l'Union des supérieurs de France s'était insurgée en qualifiant le film, avant sa sortie, donc de film blasphématoire qui déshonore les religieuses. Malgré tout, il est sélectionné au Festival de Cannes et puis il s'avère beaucoup moins sulfureux que ce que la rumeur qui l'avait précédé ne semblait le dire. Ce qui est intéressant avec l'extrait que vous avez sélectionné, c'est qu'on a un renversement total des valeurs dans le sens où la supérieure qui est en approche de drague, comme dirait Jean-Claude Bologne dans son histoire de la drague, qui montre toutes ces stratégies qui se mettent en place avec lenteur, progressivement, on essaye petit à petit de découvrir le goût de celui que l'on tente de faire succomber. Et puis, une fois qu'on s'est assuré de ce goût-là, on agit. Bon, là, en l'occurrence, le goût n'est pas le même pour Suzanne, donc pour la religieuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la supérieure qui est censée incarner cette perfection morale qui tente de faire succomber Suzanne, alors que Suzanne entre dans le couvent sans vocation. Et donc, c'est elle qui serait peut-être la plus réceptive au désir et qui manifestement freine face à cette séduction. Alors Diderot, il a aussi un rapport particulier au couvent, puisque sa sœur était religieuse et elle est morte au couvent, et on dit qu'elle est morte folle de cet enfermement. Ça n'est pas non plus sans écho avec une forme d'actualité pour Diderot, puisque en 1758, la justice reçoit une lettre d'une religieuse de l'abbaye royale de Longchamp, Marguerite de Lamarre, qui demande à être libérée du couvent parce qu'elle en perd la raison. Et Diderot joue sur cet effet de réel, comme d'autres philosophes du XVIIIe siècle, dans cette critique croissante de ce que sont les monastères, critique qui n'est pas seulement dans un rapport avec la chasteté, mais qui est aussi dans un rapport avec une idée d'utilité sociale. Les moines et les moniales seraient inutiles au monde, et rien que pour cela, leur statut ne serait pas souhaitable.
Dans cette ligne, d'ailleurs, on rencontre un certain nombre d'hypocrisies chez tous ceux qui rédigent à grand succès de la littérature érotique qu'on se repasse sous le manteau et qui expliquent qu'ils le font précisément pour aider à purger les mœurs ignobles de l'Église catholique. Je vous cite par exemple « Il faut être bien ignorant de ce qui se passe dans le monde pour ne pas savoir le dérèglement des mœurs qui règnent dans les cloîtres. C'est un mal connu de tout temps. L'histoire nous en fournit des exemples et tous les gens de bien en gémissent et en souhaitent le remède. »
Il y a cette critique d'une hypocrisie de ce qui se passe à l'intérieur du cloître. Cette hypocrisie, elle se remarque aussi dans le commerce du livre et dans l'écriture du livre, puisque une partie des ecclésiastiques sont des écrivains qui sont eux-mêmes auteurs d'ouvrages érotiques et pornographiques, ou alors sont des vendeurs de ces ouvrages.
Dans la collection de la Pléiade, on trouve deux volumes consacrés au roman libertin du XVIIIe siècle, que vous savez probablement par cœur.
Par cœur, je ne sais pas, mais disons que je les ai fréquentés assidûment.
Et on peut donner des exemples.
On peut donner
l'exemple de Thérèse philosophe.
On peut donner l'exemple de Thérèse philosophe, qui est particulièrement éclairant et qui rebondit d'ailleurs avec cet effet de réel dont on parlait tout à l'heure à propos de Diderot, puisque Thérèse philosophe contient une scène qui est tirée d'une affaire judiciaire qui a vraiment eu lieu. Donc Thérèse entre au couvent et vit une initiation à caractère charnel en assistant à une entrevue entre une certaine demoiselle Héradis et un certain père d'Irague. Or, ce sont les anagrammes du père Girard et de la demoiselle Cadière. Donc, une affaire judiciaire qui a commencé à Toulon, qui s'est poursuivie à Aix-en-Provence et qui a connu un rayonnement dans tout le milieu lettré du Royaume de France et au-delà même, on en trouve trace dans la correspondance de Grimm, dans certains milieux lettrés européens.
On est au mi-temps du siècle.
Entre 1728 et 1731, moment où le Parlement d'Aix-en-Provence rend un non-lieu.
Mais le livre est de 1748.
Et le livre est de 1748. Et il semblerait, parce que le livre a longtemps eu un auteur considéré comme anonyme, il semblerait que le livre ait pour auteur le marquis Boyer d'Argent, qui est un des fils des parlementaires du Parlement d'Aix-en-Provence et qui avait donc accès à une source de première main. Même s'il se trouve qu'au XVIIIe siècle, les factums, donc les mémoires judiciaires, ont le droit d'être publiés, donc on a quand même accès à ce qu'il se passe au prétoire d'une manière un peu plus officielle. Et donc cette affaire met aux prises une jeune fille qui prend pour directeur de conscience un jésuite et qui l'accuse, pour faire simple, d'inceste spirituel, donc d'avoir usé de son ascendant spirituel, de sa direction de conscience, pour pouvoir succomber sa passion. Et elle l'accuse également, je parlais tout à l'heure de soubresaut de sorcellerie, elle l'accuse de possession, d'avoir jeté sur elle un souffle démoniaque. Elle l'accuse aussi d'avortement, de sodomie. Et lui, en retour, l'accuse aussi d'un certain nombre de griefs, selon la logique habituelle dans la justice d'Ancien Régime, qui est la logique des plaintes croisées. Donc il l'accuse, elle aussi, de sorcellerie. C'est un cas vraiment presque anachronique par rapport à ce qu'on peut observer au XVIIIe siècle et qui n'est pas sans rappeler les affaires de sorcellerie du XVIIe siècle. Elle présente des stigmates, des témoins attestent de phénomènes de lévitation, de langues parlées alors qu'elle ne les a pas apprises.
Après votre propos, il s'imposait que je vous donne à entendre un extrait de Thérèse Philosophe. C'est une adaptation qui a été diffusée sur France Culture le 23 novembre 1993.
Héradis voulut se jeter à ses pieds. Il la releva et la fit asseoir auprès de lui.
Voyons un peu, ma sœur, vos stigmates. Celui que vous avez sur la poitrine est-il toujours dans le même état ?
Héradis se mit en devoir de découvrir son téton gauche, au-dessous duquel était le stigmate que le bon père voulait visiter.
Ah, ma sœur, arrêtez, arrêtez. Couvrez votre sein avec ce mouchoir. Il suffira que je voie la plaie que saint François y a imprimée. Ah, elle subsiste. Je suis content. Saint François vous aime toujours. La plaie est vermeille et pure. Je vous ai déjà dit, ma sœur, que je vous distinguais de toutes mes autres pénitentes, vos compagnes. Je vous distingue parce que je vois que Dieu vous distingue lui-même de son saint troupeau, comme le soleil est distingué de la lune et des autres planètes. Pour cette raison, je n'ai pas craint de vous révéler ces mystères les plus cachés. Je vous l'ai dit, ma chère sœur, oubliez-vous et laissez faire. Oubliez votre corps pour parvenir à vous unir à Dieu, à devenir sainte, à faire des miracles. Pensez à ces bienheureux martyrs qui ont été flagellés, tenaillés, rôtis, sans souffrir la moindre douleur, parce que leur imagination était tout entière occupée de la gloire de Dieu. Sentirez-vous de faibles coups de discipline si votre âme est fermement occupée du bonheur qui vous attend ? Telle est la pierre de touche qui nous conduit à faire des miracles. Tel doit être l'état de perfection qui nous unit à Dieu. Mon petit ange, je ne puis vous le dissimuler. Dans notre dernier exercice, je me suis aperçu que votre esprit tenait encore à la chair. Nous allons continuer.
Nous ne sommes pas très loin, Myriam Daniel Ternand, dans un mode un peu différent du La Fontaine que je vous faisais entendre tout à l'heure.
Il y a beaucoup de rapprochements à faire, effectivement, avec La Fontaine dans cette perversion du langage religieux, du langage théologique, puisque l'esprit devient le sexe masculin, le cordon de Saint François aussi. Et puis il y a aussi des rapprochements à faire avec le Tartuffe de Molière,
Cacher ce sein que je ne saurais voir.
De cacher ce sein que l'on ne saurait voir ici, sous prétexte de stigmate. Et puis, cet extrait est particulièrement bien choisi, je dois dire, parce que on parlait d'effet de réel. Le « oubliez-vous et laissez faire », il est très important dans cette affaire, parce que le « oubliez-vous et laissez faire », on le voit dans la lettre des gravures, donc des estampes qui sont vendues sous le manteau à l'occasion de cette affaire, comme autant de produits dérivés, dirait-on aujourd'hui, de cette affaire.
Polisson ou licencieux, comme on veut.
Oui, et cette lettre, donc cette légende des gravures, est en fait tirée d'une partie de la correspondance qui a été saisie entre le père Gérard et la demoiselle Cadière, dont on a perçu le double sens. Donc là, c'est une sorte d'intertextualité sur ce procès entre la demoiselle Cadière et le père Gérard, avec cette phrase issue d'une correspondance intime entre les deux, qui rebondit dans les gravures, qui rebondit dans le roman érotique. C'est effectivement un extrait riche.
Venons-en, si vous le voulez bien, Myriam Daniel Ternan, venons-en aux ecclésiastiques qui sont, non pas derrière leur clôture, plus ou moins poreuse, vous l'avez montré, mais dans le siècle. Et on en vient forcément à la grande question, beaucoup plus ancienne qu'on ne croit souvent, des débats autour du mariage des prêtres. Ça remonte pratiquement au début du christianisme.
Il n'est pas du tout fixé d'emblée que les ecclésiastiques n'auraient pas accès au mariage. Cet empêchement d'irriment au mariage se met en place subrepticement, pas à pas, s'impose au XIIe siècle, mais il fait régulièrement l'objet de débats. Ce qui change, ce n'est pas tant donc ce débat qui a toujours cours, ce qui change, ce sont les arguments qui sont brandis pour remettre en cause ce célibat ecclésiastique. Donc au XVIIIe siècle, ces arguments, ce sont des arguments d'utilité sociale, ce sont des arguments aussi économiques, puisqu'on croit de plus en plus que la puissance d'un État se mesure au nombre de ses habitants. Or, on a une frange de la population qui ne peut pas contribuer à cet effort démographique. C'est donc un manque à gagner pour la puissance de la France. Et puis, on a un argument de plus en plus aussi sanitaire, médical, et par exemple, au tout début de la Révolution française, un curé, le curé de Cour, le curé Blanchet, du nom de Blanchet, envoie un courrier à l'Assemblée nationale pour demander à avoir droit au mariage, et il décrit dans ce courrier tous les symptômes de ce que la sublimation de la chair induit en lui, et qui le confine à la folie. Donc cet argument sanitaire, c'est celui qui prévaut de plus en plus au XVIIIe siècle. Et ensuite, pendant la Révolution française, on a d'autres arguments qui sont de nature politique.
À telle enseigne qu'un décret de 1792 lève l'obligation pour les prêtres de l'Église des jureurs d'être célibataires.
Oui, alors on n'est pas encore à l'acmé de la déchristianisation de l'an 2, mais on y est presque. Et cette levée d'interdit n'est justement pas seulement une levée d'interdit, cela devient presque un manifeste d'engagement politique pour un ecclésiastique de se marier, dans une perspective où les contre-révolutionnaires prennent un poids croissant. Et parmi les contre-révolutionnaires, on a un contingent non négligeable d'ecclésiastiques. Donc être un ecclésiastique et convolé, c'est interprété comme un engagement en faveur de la Révolution française.
On est renvoyé évidemment à des débats tout à fait contemporains, puisque aujourd'hui, l'Église de rite oriental, avec les maronites, les chaldéens, les melkites, ont droit au mariage. Les prêtres ont droit au mariage.
Oui, c'est une réclamation d'ailleurs d'une partie des catholiques que de permettre aux ecclésiastiques catholiques occidentaux d'avoir accès au mariage.
Une étape a été franchie lorsque le pape Benoît XVI, en 2009, a autorisé d'anciens ministres du culte anglican qui étaient mariés à devenir prêtres catholiques. Mais revenons à ce 19e siècle commençant, cette nouvelle latitude donnée aux prêtres de se marier provoque naturellement de très fortes réactions. Je vais vous donner à entendre un extrait significatif de Chateaubriand. Dans son grand livre « Le génie du christianisme » de 1802, à propos de la nécessaire chasteté des serviteurs de Dieu. C'est une lecture de Leïla Anvar dans Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir sur France Culture le 9 mars de l'an de grâce 2010.
La plupart des sages de l'Antiquité ont vécu dans le célibat. On sait combien les gymnosophistes, les brahmanes, les druides ont tenu la chasteté à l'honneur. Les sauvages même la regardent comme céleste. Car les peuples de tous les temps et de tous les pays n'ont eu qu'un sentiment sur l'excellence de la virginité. Chez les anciens, les prêtres et les prêtresses qui étaient censés commercer intimement avec le ciel devaient vivre solitaires. Et la moindre atteinte portée à leurs vœux était suivie d'un châtiment terrible. Considérée sous ces autres rapports, la virginité n'est pas moins aimable. Dans les trois règnes de la nature, elle est la source des grâces et la perfection de la beauté. Les poètes que nous voulons surtout convaincre ici nous serviront d'autorité contre eux-mêmes. Ne se plaisent-ils pas à reproduire partout l'idée de la virginité comme un charme à leur description et à leur tableau? Mais c'est surtout dans l'homme qu'elle déploie son excellence. Saint Ambroise a composé trois traités sur la virginité, il a mis les charmes de son éloquence et il s'en excuse en disant qu'il l'a fait ainsi pour gagner l'esprit des vierges par la douceur de ses paroles. Dans l'homme, la virginité prend un caractère sublime. Troublée par les orages du cœur, si elle résiste, elle devient céleste. Mais la chasteté est nécessaire quelque part, c'est dans le service de la divinité. L'homme qui s'est dévoué à ses autels y est plus obligé qu'un autre. Il ne s'agit pas ici, dit saint Chrysostome, du gouvernement d'un empire ou du commandement des soldats, mais d'une fonction qui demande une vertu angélique. L'âme d'un prêtre doit être plus pure que les rayons du soleil.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Saint Jean Chrysostome, c'est Saint Jean Bouche d'Or. Est-ce que Chateaubriand, selon vous, Myriam Deniel Ternant a une bouche d'or?
Ce que je peux dire, c'est qu'il est en phase avec son temps. On est juste après le Concordat, donc juste après le moment où on fait rentrer dans le rang les ecclésiastiques révolutionnaires. Et donc ce retour sur des rails se passe aussi sur des rails charnels, donc sur une nouvelle promotion de la chasteté. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que sur les 5900 prêtres qui se sont mariés pendant la Révolution française, plus de 3000 d'entre eux écrivent une pétition au pape pour obtenir l'absolution. Donc on est bien dans un retour en arrière, dans ce mouvement de balancier qu'on remarque régulièrement dans l'histoire. Des moments où on avance et puis des moments où on recule. Alors je ne sais pas si le retour à la chasteté est un recul ou un avancement, je laisserai seul juge les auditeurs.
Et les auditrices.
Et les auditrices, évidemment.
Ils l'ont obtenu, cette absolution?
Oui, ils l'obtiennent, oui. C'est une partie de l'enjeu du Concordat, c'est de réconcilier les catholiques de tous bords, quel que soit leur engagement, leur conviction politique au cours de la Révolution française.
On aboutit à ces décisions de la Révolution que parce que tout le 18e et même une partie du 17e est marqué par une tradition d'ironie populaire, parfois indulgente, vous allez nous le dire, à l'égard de la manière de vivre des ecclésiastiques dans le siècle, des curés en particulier, qui sont très nombreux évidemment dans cette France de l'Ancien Régime.
Oui, j'ai le sentiment que les 17e, 18e siècles sont beaucoup plus permissifs que ne l'est le 19e siècle quant aux frasques de son clergé.
Alors il y a toute l'idée que le prêtre, le curé vit avec une servante qui est souvent concubine. C'est une littérature assez abondante pour que vous vous y arrêtiez un instant.
Alors c'est une littérature, mais c'est aussi un fait. Là, il y a plusieurs historiens et historiennes qui ont travaillé sur ces sujets, et dont moi aussi, et qui ont mis en évidence les fondements de cette bonne du curé, de cette servante qui vit au contact étroit avec les ecclésiastiques. Et si on lit ne serait-ce que les statuts synodaux, on s'aperçoit à quel point ça revient comme un refrain que de rappeler impérativement aux ecclésiastiques qu'ils ne doivent pas prendre de servante de moins de 50 ans. Donc 50 ans paraît être apparemment la la frontière au-delà de laquelle le danger est moindre, mais ce refrain, ce leitmotiv si régulier soit-il, dit quelque chose sur le non-respect de ces engagements de domestiques jeunes, et puis on les voit, hein, ces relations ancillaires dans les sources de la pratique, dans les sources judiciaires, on en a de nombreux exemples.
Les évêques doivent parcourir régulièrement leur diocèse pour aller rendre visite aux prêtres, aux curés, notamment pour vérifier cela.
Oui, plutôt au XVIIe siècle, c'est vrai que les évêques rédigent des sortes de rapports de visite au cours desquels on voit poindre ces avertissements, ces remises en ordre d'ecclésiastiques qui vivent en concubinage avec des servantes. Cela disparaît progressivement au XVIIe siècle des rapports, des procès-verbaux de visites pastorales, mais ça ne signifie pas que la pratique, elle, disparaisse.
C'est le temps où le prêtre Pierre Juvernet, je vous cite, je vous ai bien lu, explique dans un livre qui s'appelle « Foudre, foudroyons ensemble », il explique, je cite, « à quel point il est difficile que les hommes et les femmes soient ensemble sans qu'ils ne sentent quelque tentation ou émotion charnelle ».
Oui, et alors ce qui est difficile de déterminer, c'est si cette tentation, elle se produit du fait de l'opportunité d'une vie de promiscuité ou si elle précède l'engagement d'une domestique à des fins d'en user.
Alors, vous ne tranchez pas ?
Il y a un cas que j'avais trouvé particulièrement stimulant. En termes d'analyse, c'était une situation où un évêque avait averti un prêtre qu'il devait impérativement renvoyer sa domestique, non pas tant parce qu'il avait frayé avec elle, mais parce que cela donnait lieu à des discours, à des rumeurs qui étaient presque aussi graves, si ce n'est plus, que le fait même d'avoir succombé.
C'est essentiel ce que vous dites, car on arrive à le scandale du monde et ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence, on rejoint Tartuffe. L'importance de la rumeur, sujet passionnant pour l'historien, ça paraît considérable dans le champ dont nous traitons aujourd'hui.
Le scandale, c'est vraiment la pierre d'achoppement sur laquelle on peut tomber, on peut basculer, et c'est d'ailleurs ce qui entraîne ce qu'on appelle la saisine de justice, c'est lorsqu'il y a scandale. Finalement, lorsque l'ecclésiastique entretient une relation suivie, mais discrète, tout en assurant ses fonctions sacerdotales sérieusement, la paroisse ferme les yeux, voire parfois est satisfaite de cette relation stable qui met à l'abri les filles, les autres filles de la communauté, des désirs du prêtre.
Le confessionnal devient plus sûr.
Oui. Mais le scandale, en revanche, c'est lorsqu'il y a scandale qu'on a un effet de bascule et une réaction institutionnelle qui peut conduire jusqu'à la poursuite judiciaire.
Mais on est sensible au fait que très souvent, les paroissiens défendent leur curé contre des attaques éventuelles à cet égard. Vous citez des textes tout à fait topiques de ce point de vue-là.
Oui, parce que ce qui compte avant toute chose, c'est le fait d'assurer convenablement ses fonctions de prêtre. Je pense en particulier aux curés, donc ceux qui ont charge d'âme. Il y a une sorte d'étanchéité, ou du moins de compartimentage, qui est assez étonnant dans peut-être ce qu'on pourrait projeter sur les sociétés d'Ancien Régime. À partir du moment où l'ecclésiastique fait bien son travail, donc fait bien le prône, fait bien les sermons, fait bien le catéchisme, assure l'administration des sacrements, à partir de ce moment-là, on s'accommode, voire... Dans certains cas, on s'amuse du reste. Et en revanche, si, en dehors même du cas de point de bascule du scandale, si l'ecclésiastique n'assure plus une partie de ses fonctions, en particulier s'il n'est pas là au moment où l'un des paroissiens décède et donc qu'il n'est pas en mesure d'administrer l'extrême-onction, là, on s'empare de la justice.
La discrétion vaut aussi pour les accouchements de la servante lorsqu'il arrive qu'elle soit riche des œuvres du curé. La question des enfants que vous évoquez tout à l'heure à propos des démographes me paraît également intéressante. Indulgence ou pas des paroissiens ?
Non, il n'y a plus beaucoup d'indulgence parce que c'est un scandale de chair. Hein. C'est le résultat de la liaison entre l'ecclésiastique et puis sa concubine ou sa rencontre fortuite. Donc non, là, il n'y a plus d'indulgence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a grossesse qu'il y a naissance. Et les ecclésiastiques, on le sait, ont accès à des funestes secrets qui permettent parfois de faire en sorte que le fruit n'aboutisse pas.
Vous citez là les funestes secrets du fameux démographe Moho qui déplorait qu'il triomphe jusque dans les campagnes, c'est bien cela?
Il triomphe dans les campagnes et puis il triomphe aussi au presbytère. Puisqu'on a au XVIIe siècle un procès, celui du curé Pierre Héroux, dont il est dit que, selon toute vraisemblance, il a concocté des boissons abortives pour sa maîtresse, puisqu'il est venu chez l'apothicaire afin d'acquérir des drogues, des médecines, pour pouvoir faire en sorte que la grossesse ne parvienne pas à son terme. Et puis d'autres anecdotes d'ecclésiastiques qui se réjouissent du fait que leur servante a fait une chute malencontreuse qui a eu pour effet de lever tout problème sur la preuve charnelle de leur compromission.
On peut ajouter, Myriam Deniel-Ternant, que ces prêtres incarnent une notabilité au village. Ils ont des livres, ils sont instruits. Oui. Ils sont en même temps originaires du peuple, mais ils exercent souvent sur les paroissiennes une fascination dont la rumeur publique dit qu'il tire parfois parti.
Oui, déjà rien qu'en termes de monumentalité, le presbytère n'est pas le même bâtiment que le reste de la paroisse. Il est fait de tuiles, il est souvent construit par un architecte, il est vaste. Et puis le curé, celui qui a charge d'âme, il maîtrise l'écrit, il est destinataire aussi d'un certain nombre d'écrits officiels qu'il doit communiquer au reste de la paroisse. Il fait figure d'officier d'état civil avant la lettre, puisqu'il enregistre les baptêmes, les décès, les mariages. Donc il a un rôle qui dépasse largement la fonction sacerdotale, et de ce fait, il exerce une certaine aura, une attraction. Alors Pierre Manuel, l'auteur de La police dévoilée au début de la Révolution française, ne manque pas de signaler que à la messe du dimanche, à la grand-messe, les élégantes se pressent comme elles passent la revue pour pouvoir être repérées par celui qui officie.
Qui de surcroît connaît souvent leurs secrets à cause du confessionnal.
Oui, ça ajoute effectivement une emprise. On n'a pas parlé du consentement, on n'a pas parlé de la difficulté que représente lorsqu'on travaille sur les sources le fait de saisir si ces relations sont véritablement consenties de part et d'autre, mais il y a une emprise sociale, religieuse, qui contribue à cette séduction.
Il y a un chapitre spécifique dans cette histoire des débauches dans l'Église dont vous traitez, Myriam Deniel-Ternant. C'est le cas de la hiérarchie ecclésiastique, je veux dire les évêques, les archevêques, qui sont évidemment scrutés d'une façon particulière. On a souvent donné à chanter aux enfants « Il court, il court, le furet ». Je vais vous le faire entendre et après vous nous direz s'il n'y a pas une interprétation à cet égard qui mérite quelque attention.
Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, le furet du bois, mesdames. Il repassera par là, le furet du bois joli.
Oui, cette chanson serait, nous dites-vous, moins innocente qu'il n'y semble.
Alors, sous des dehors de comptines légères à destination des enfants se cache une contrepétrie.
La règle est de ne jamais l'expliciter à l'antenne ou ailleurs. Alors, vous chercherez.
On laissera les auditrices et les auditeurs chercher.
Mais il y a une allusion aussi à un fameux homme d'État qui est aussi un cardinal.
Alors, plus qu'une allusion, puisque si on tend l'oreille, on entend le mot, le nom Dubois. Il s'agit de Guillaume Dubois, qui est l'ancien précepteur du futur régent Philippe d'Orléans, précepteur dont la réputation est d'être un pourvoyeur de prostituées pour son élève. On a un chroniqueur au début du XVIIIe siècle qui se fait le relais de cette rumeur en affirmant que circule dans Paris une chanson qui contient les paroles suivantes. On sait d'ailleurs les services que son éminence a rendus au régent. Et puis Barbier rapporte aussi que lorsque Dubois parvient à obtenir la pourpre cardinalis, donc à devenir cardinal en 1721, eh bien un bon mot circulerait aussi à Paris, un bon mot à propos du pape. Je cite ce bon mot, « Le pape est un fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget ».
Jolie citation. On retrouve cette ambiance dans le film fameux de Bertrand Tavernier, « Que la fête commence ».
Oui.
Nous parlions de la répression de l'intérieur et de la répression policière.
Elle s'exerce à cette époque-là et cela mérite d'être rappelé à propos de la chasse aux abbés dont parle le grand Louis-Sébastien Mercier. Expliquez-nous ça.
Au XVIIIe siècle, on a toute une institution policière qui se met en place, qui se structure, qui s'hiérarchise, qui se bureaucratise. Et au milieu du siècle, au mi-temps du siècle, le contexte politico-religieux est extrêmement houleux, avec une très forte opposition entre jésuites et jansénistes, une très forte opposition parlementaire contre l'exercice du pouvoir royal, un nouvel archevêque de Paris, Christophe Beaumont du Repère. On a, bref, un ensemble de facteurs convergents dont on ignore la cause initiale, du moins on n'a pas accès à la source écrite, mais qui aboutit au lancement d'une véritable chasse aux abbés, si on reprend Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris. On a une surveillance qui se met en place de la part des services de police, par les inspecteurs Meunier et Marais, entre environ 1755 et 1763, où on aboutit à l'arrestation de, au minimum, 900 ecclésiastiques.
Des prêtres et des moines.
Tous statuts confondus, dans les lieux publics de Paris, dans les lieux de prostitution de Paris, sachant qu'il y a eu vraisemblablement une déperdition de sources, puisque ces sources étaient conservées aux archives de la police. Or, les archives de la police étaient dans les murs de la Bastille. Donc, au moment de la prise de la Bastille, ces papiers s'envolent. Une partie est réunie et se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal. Et puis, une partie a été récupérée par quelqu'un qui l'a publiée en 1790, dans une instrumentalisation contre les ecclésiastiques pendant la Révolution française. Mais toujours est-il que j'ai à peu près 970 ecclésiastiques pris en flagrant délit chez les filles publiques de Paris sur cette tranche-là.
C'est frappant, les citations que vous donnez, c'est en particulier que les moines que l'on trouve assis tout nus et que la police songe à faire sortir dans la rue, elle y renonce.
Oui, elle y renonce et on voit toujours cette crainte du scandale. On a d'autres cas où l'inspecteur s'enquiert auprès du lieutenant général de police en apprenant que celui qu'il a arrêté est d'une extraction sociale aisée. Il s'enquiert de savoir ce qu'il en fait ou ce qu'il n'en fait pas et finalement il le relaxe parce que son origine sociale le protège, est un garde-fou à une répression.
Et sans excès d'irrespect, la concordance des temps oblige à évoquer ce cardinal, ce prélat de l'Église française, qui en 1974 est mort, semble-t-il, à proximité d'une dame de petite vertu. Il faudrait faire un sort aussi à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle le péché de Sodome, c'est-à-dire l'homosexualité entre hommes, qui n'est pas absente de votre curiosité, Myriam Daniel Ternin.
Alors, je m'y suis aussi intéressée, même si la notion d'homosexualité est difficile à manier au XVIIIe siècle, puisque la terminologie n'existe pas encore. On manque pas de vocabulaire pour pouvoir désigner la sexualité entre hommes. Ce sont des, si je reprends les termes du temps, des infâmes, des sodomites. Et à la fin du XVIIIe siècle, on commence à utiliser le terme de pédéraste. Et là aussi, les services de police s'emparent de ces modalités de sexualité, mais pas uniquement dirigées vers les ecclésiastiques. On a des services de police qui sont spécialisés dans la surveillance des jardins qui ne sont pas des jardins publics, qui sont des jardins privés, mais à usage du public, comme les Tuileries, le Luxembourg. Et donc, ils envoient, puisqu'eux ne sont pas habilités à y rentrer, ces services de police, elles ne sont pas habilitées à y rentrer, ils envoient des appâts, des mouches, afin d'attirer l'homme en mal d'homme, ainsi que je l'avais écrit, dans leur raie, dans leur filet. Et parmi ces hommes se trouvent des ecclésiastiques qui sont donc pris au piège par ces mouches, ces appâts.
Et donc vous trouvez la trace là dans les archives policières?
Oui, dont on trouve la trace dans les archives policières. Et ce sont des archives qui sont extrêmement intéressantes parce que contrairement aux archives policières des ecclésiastiques pris en flagrant délit chez les filles publiques, les rapports de police ne sont pas rédigés par les policiers, les rapports de police sont rédigés par les appâts, qui sont souvent d'une origine sociale moindre, et donc le langage est très fleuri et très cru, et ça permet d'avoir accès déjà aux détails des pratiques, mais ça permet aussi d'avoir accès à un vocabulaire qui nous échappe lorsqu'on passe par le filtre du greffier ou le filtre de l'inspecteur ou du commissaire plus éduqué.
Est-ce que vous avez discerné si à l'intérieur de l'Église on était plus sévère
à l'égard de ces pratiques qu'à celle de l'hétérosexualité, comme nous dirions aujourd'hui?
Non, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une différence de sévérité. La sévérité, elle se situe plutôt dans la récidive. Dans les deux cas, que ce soit des pratiques dites hétérosexuelles ou des pratiques dites homosexuelles, ce qui fait la différence en termes de répression, c'est la publicité, on en parlait, le scandale, et puis la récidive. C'est ça qui déclenche une répression, une saisine de justice ou un envoi devant l'audience en audience du lieutenant général ou un envoi à Bicêtre pour ce qui est de ceux qui feraient entre hommes.
L'origine sociale peut-être aussi de
l'origine sociale, oui, effectivement. Vous parliez du haut clergé, mais le haut clergé, on y a très peu accès, déjà parce que les sources biffent, c'est-à-dire rayent les noms, voire ne les indiquent pas. Et finalement, on y a accès dans une littérature qui est une littérature de connivence et dont il est toujours très difficile de saisir ce qui relève de l'instrumentalisation politique, de mœurs véritables de ce haut clergé.
Eh bien, merci beaucoup. Merci. Myriam Deniel Ternant, votre ouvrage s'intitule « Une histoire érotique de l'Église », je le rappelle, avec comme sous-titre « Quand les hommes de Dieu avaient le diable au corps », publication de Payot, toute récente. Vous vous êtes mêlé de ce sujet déjà antérieurement, puisque vous aviez concentré votre attention, je le disais, sur le XVIIIe siècle, et puisqu'on peut trouver aux éditions Champvallon, 2017, un précédent ouvrage qui s'appelait « Ecclésiastiques en débauche », j'ai repris le terme, « Ecclésiastiques en débauche, 1700-1790 ». C'était votre thèse, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas.
Oui, c'est cela. C'était la version remaniée et publiée de ma thèse.
Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète, plus complète, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez naturellement écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne.
Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Marat fut généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu.
Je veux parler sans gêne, nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne.
Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Coquin filou.
Et sur le fond de la chanson anonyme qui s'appelait « Le Père Duchêne », dont notre sujet d'aujourd'hui n'est pas tout à fait absente. Une chanson de 1792, « Le Père Duchêne », c'est le journal de Hébert, sur un fond d'une chanson interprétée par les Quatre Barbus en 1969. Je vous rappelle que vous venez d'entendre « Concordance des temps », une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Fabien Gosset, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et avec Inès Barja pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, toujours si précieuse.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire blotter les fesses, nom de Dieu, se faire blotter les fesses.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.